bonjour à tous et à toutes. Je voulais remercier professeur Christian de cette invitation. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être ici pour partager un petit peu nos connaissances et apprendre aussi sur les autres pays de l'Amérique latine. Merci Hugo pour la présentation. Voilà, je vais vous demander d'être vraiment rigoureux parce que souvent je suis plus... je parle de trop. Enfin, ma présentation aujourd'hui concerne on va traiter en fait du modèle de croissance économique brésilien. En fait, on va essayer de comprendre quels sont le fondement de ce modèle de croissance et ses limitations. Enfin, l'idée, c'est de savoir s'il existe vraiment des fondements pour ce modèle de croissance. Bon, comme peut-être vous le savez, depuis l'arrivée du président Lula, du PT, en fait, depuis 2003, le pays, le Brésil, il a subi une forte transformation à la sphère sociale. On parle d'environ, par exemple, environ 40 à 50 millions de personnes qui ont accédé à la nouvelle couche moyenne. Puis, une bonne partie qui a quitté la pauvreté extrême, et bien sûr une partie qui a accédé aux couches moyennes. Si on imagine une population de presque 200 millions de personnes, ça fait vraiment un grand changement. Par contre, ce qui se passe, la discussion est de savoir si ce modèle-là, il peut être soutenable à moyen-long terme. On a ce modèle depuis déjà 10 ans. Est-ce qu'il y a de la consistance dans ce modèle de croissance brésilienne et d'inclusion? En fait, c'est un modèle de croissance avec partage de revenus. Alors, on va essayer de tester particulièrement deux hypothèses. La première, très, très couramment présentée par les analystes ou dans les médias aussi, la critique selon laquelle le modèle il est poussé par la tiré par la consommation. Alors, est-ce que cette hypothèse est vraiment valable? Est-ce qu'elle tient? Et l'autre hypothèse est que le limite à la croissance, bien sûr, c'est lié aussi à cette idée que la croissance elle est tirée par la consommation, elle serait liée à la basse productivité du travail. En fait, le limite à la croissance brésilienne est lié à des questions liées à la main-d'œuvre et bien sûr au taux d'investissement. Je vais parler très brièvement de la genèse de l'industrialisation brésilienne, juste pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux à l'heure actuelle. L'industrialisation brésilienne, depuis les années 50, elle a été fort concentrée sur l'idée qu'il fallait augmenter le marché de consommation de masse, notamment par un accroissement des couches moyennes et aussi consolider la bourgeoisie industrielle nationale. Enfin, c'était ces deux idées étaient vraiment liées à comment consolider l'industrialisation brésilienne, en fait. Et bien sûr pousser la croissance. Alors, expansion de la demande de biens de consommation durable qui exigeait d'une certaine mesure une forte concentration du revenu, soit pour que le couchement puisse consommer, bien sûr, soit, et notamment, que la bourgeoisie industrielle puisse augmenter leur processus d'accumulation du capital. Alors, ce modèle-là, il a très bien fonctionné au niveau de l'industrialisation, de consolider l'industrialisation au Brésil et de pousser la croissance. On a eu des moyennes, par exemple, dans les 60 et début 70, de croissance de 13-14% l'année. Puis, ça fait vraiment un grand changement. Et bien sûr, pour cela, on a eu aussi une forte présence de l'État avec les investissements en infrastructure. Et bien sûr, par le financement du secteur privé aussi. OK? Ce modèle-là a connu une rupture dans les années 80, bien sûr, les problèmes qui ont affecté la plupart des pays latino-américains, la crise de la dette externe. Alors, on a été obligé de faire un redressement de cette politique. Et puis, le résultat était une forte chute de cette croissance et aussi un ralentissement de la croissance, bien sûr. Et il y a eu comme résultat aussi un approfondissement de taux des inégalités. On atteint des sommets et le Brésil, dans les années 80, était l'un des plus inégales, bien qu'il est toujours parmi les plus inégales, mais il était vraiment l'un des plus inégales au monde. Dans les années 90, on a en quelque sorte essayé de redresser cette instabilité qui était fort présente dans les années 80, une forte instabilité macroéconomique et l'inflation qui a atteint des taux insupportable. Alors, on avait déjà essayé des plans dans les années 80 hétérodoxes, mais qui n'a pas marché. Mais dans les années 90, l'idée était de redresser cette stabilité de réintroduire l'instabilité. Et pour cela, on a fait un fort changement d'approche, ça veut dire on a procédé à l'ouverture, comme plusieurs pays aussi, l'ouverture commerciale et surtout financière, et aussi notre monnaie, la monnaie le real qui était institué en 1994, il a subi une forte appréciation. Alors un modèle qui favorisait d'une certaine mesure les importations pour augmenter l'offre interne de biens et bien sûr aider dans le processus, dans le plan de stabilisation. Et aussi l'entrée de capital importante pour financer le déficit courant. À cette époque-là, pas provoqué par le déficit commercial, il n'y avait pas un déficit, mais c'était surtout par les autres comptes de services qui se sont fort agrandis. Alors, qu'est-ce que je veux ? Alors, tous ces instruments ont fini par réduire progressivement la part de l'industrie dans la production nationale, dans la valeur ajoutée du pays. Et c'est quelque chose qu'on avait traité l'année dernière, enfin, le processus de désindustrialisation, etc. Enfin, alors, on a eu un affaiblissement de la structure industrielle au Brésil, qui était déjà très complexe. Dans les années 80, le Brésil était l'un des pays les plus diversifiés au monde, si vous voulez. Et bien sûr, dans les années 90, on a subi un processus de plus grande spécialisation. Plusieurs entreprises ont disparu, bien sûr, et celles qui sont restées étaient celles qui étaient plus performantes, qui étaient capables de concourir avec des produits importés et voire se lancer au marché international. Par contre, les taux de croissance n'ont pas repris comme comme ils étaient dans les années 70, le taux de croissance a été très bas et le taux de croissance du PIB par tête il s'est accru de façon très 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 lente, ok, et bien sûr l'inégalité elle s'est maintenue. Avec l'arrivée du PT au pouvoir, on introduit un nouveau modèle, c'est celui qu'on est on va discuter maintenant. C'est un modèle qui cherche à allier les instruments pour la stabilité avec la croissance. C'est pour ça que c'est un modèle, c'est moi qui écrit ça, orthodoxe, ortho-hétérodoxe, pendulaire. Enfin, c'est pourquoi? Parce que des fois, c'est plus orthodoxe, des fois, c'est un petit peu plus hétérodoxe, mais l'idée, c'est de ne pas compromettre, et ça, c'était un compromis du président Lula depuis qu'il est monté au pouvoir, c'était un compromis implicite avec le marché. Il ne fallait pas toucher au fondement de la stabilité. Il n'était pas question de revenir au taux de croissance, à l'inflation qu'on avait précédemment. C'est un monstre qu'on ne voulait pas. Alors, il fallait vraiment garder ces fondements de la politique orthodoxe pour maintenir les prix sous contrôle. Mais il fallait faire quelque chose pour changer la situation sociale au Brésil. C'était aussi un autre compromis avec une partie de la population ou de l'électorat qu'il a élu. Bien qu'à cette époque-là, c'était beaucoup plus les couches moyennes qui ont élu Lula, qui est le plus pauvre. Mais ça change pour le deuxième mandat. Mais, alors, ces modèles-là devraient compter aussi avec des politiques publiques actives, surtout dans la sphère sociale. Et on verra, c'est un programme qui a fort transféré pour les pauvres. On a approfondi le programme de transfert conditionné du revenu, ce qui a fort changé la situation des plus pauvres. Et bien sûr, on va discuter. Si vraiment ces modèles-là, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans ces modèles-là? Est-ce qu'il est vraiment poussé par la consommation? Juste pour, quelques faits saillants des années 2000 pour... ok, attendez, je crois qu'il est... Ok, c'est bon. Quelques données de ce que c'est, avant de parler un peu de la consommation, de l'hypothèse qu'il est, quelques faits juste pour vous situer ici ce qui s'est passé dans les années 2000. J'ai déjà parlé de l'approche orthodoxe pour la stabilité, mais qui était plus flexible pour incorporer les politiques sociales aussi. Un autre élément très important de 2000 qui va influencer ce modèle-là était la montée des prix des matières premières qui a fonctionné comme qui a donné support, qui a appuyé, disons, l'expansion des importations, qu'on verra, elles se sont fort accrues dans la période. Et bien sûr, ils ont diminué un petit peu les contraintes qui seraient posées dans le compte courant. Et bien sûr qu'on a eu un fort flux d'investissements étrangers directs et flux de financiers aussi, et qui ont été beaucoup plus que suffisants pour combler le déficit en compte courant. Ça fait qu'on a accumulé aussi un volume extraordinaire de réserves internationales. Et puis finalement, comme je vous dis, le programme de revenu. On s'attarde maintenant à parler de cette croissance. Je vais sauter peut-être, parce que je crois que j'ai déjà passé 10 minutes.
Il vous reste 6 minutes.
Oh bon, alors il faut que j'aille. Il faut que je... Oui, non. Mais très en général, l'idée de ce modèle-là était... De bien sûr élargir le marché de consommation, mais on verra cette fois-ci élargi par en intégrant les pauvres, mais c'était toujours le modèle de intégrer au marché de consommation de masse, de réaliser des investissements infrastructuraux pour aider dans le secteur, bien sûr, énergie, autoroute, etc. Et finalement, plusieurs mécanismes d'incitation aux entreprises pour augmenter les investissements. Après l'arrivée de la loi, cette perte de participation de l'industrie, par exemple, elle s'est stabilisée. Okay? Et quels seraient les résultats attendus de ces modèles-là? On va faire, on va créer des effets multiplicateurs du revenu, bien sûr, qui, par l'expansion du marché de consommation, pousse les industries, bien sûr, à offrir davantage. Ok? Et bien sûr, il y avait aussi l'idée qu'avec ce modèle-là, on allait réduire les inégalités. Et il y avait aussi l'ingrédient politique, là. On allait augmenter la base d'appui politique au gouvernement. Et ça, c'est ce qui s'est passé vraiment. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que c'est un modèle tiré par la consommation? J'ai ici quatre graphiques, juste pour montrer qui. En fait, il n'y a pas quelque chose de spécial dans le modèle actuel. Ça n'a pas vraiment changé de ce qu'on avait fait dans les années 60, 70. Le seul changement, on peut dire, c'est que le biais était beaucoup pro-pauvre. Tandis que le biais était beaucoup plus pour la concentration de revenus dans le passé. Alors, et si on compare avec, on va voir, je sais pas si on va voir, mais le graphique, si on compare avec les autres pays développés, c'est à peu près, je vais vous montrer très vite. Avec le graphique, c'est plus facile. Alors, là, vous voyez que la consommation n'a pas vraiment changé depuis l'arrivée de Lula au pouvoir, en fait, depuis le VNPT. On a une certaine stabilité de cette... alors, ce n'est pas un modèle qui a poussé davantage la consommation ou la participation de la consommation dans le PIB. Ici, c'est pour comparer avec les autres pays. Ce sont des données de 2012, mais pour certains pays comme le Canada, Japon, États-Unis et le monde, c'est 2011. Là, on voit vraiment... Est-ce qu'on peut voir? Oui, le Brésil, c'est le dernier. C'est presque la norme mondiale. Il n'y a pas vraiment une différence de la participation de la consommation de la consommation de ménage dans le produit. C'est inférieur, par exemple, que les États-Unis, le Mexique et puis le Royaume-Uni, par exemple. Ok, alors, et puis ici, c'est beaucoup plus, on peut dire que ces modèles, la consommation des ménages, elle accomplit beaucoup plus un effet amortisseur par rapport aux fortes fluctuations de la formation de brut de capital. C'est-à-dire, bien sûr, les investissements, ils ont une tendance très instable. Alors, tandis que la consommation, elle est beaucoup plus stable. L'évolution de la consommation, elle est beaucoup plus stable. Et bien sûr, vu que ça part dans le PIB, elle est relativement importante. Alors, elle aide à réduire l'instabilité du PIB. Alors, le saut de poule serait beaucoup plus élevé si ce n'était pas... Bon, et là, c'est juste pour montrer qu'en fait, la tendance qu'on vérifie est beaucoup plus d'une perte d'importance de dépenses de consommation des ménages. C'est là... On voit qu'il y a une forte tendance et puis une plus grande importance de la formation brute de capital. Okay? Ça, ce sont les taux moyens par trimestre. Ça fait que si on annualise, par exemple, ça serait un taux de 4% de croissance l'année. Okay? Et puis, bien sûr, il y a les exportations très importantes, mais on ne va pas avoir le temps. Si vous voulez, on peut revenir après. Ça montre la tendance complètement opposée d'évolution des taux de croissance des exportations et importations. Bon, alors on rentre maintenant dans la deuxième hypothèse. Est-ce que cette croissance elle est vraiment limitée par la productivité et par la productivité? Et je rajoute un deuxième ingrédient qui n'est pas très si on voit les analyses actuellement au Brésil, c'est drôle, elle n'apparaît pas, cette dominante financière qui les Français connaissent très très bien, mais que les analystes brésiliens ne font pas beaucoup référence. Je n'ai pas vu vraiment des analyses récentes qui portaient sur l'importance de cette composante financière dans ce processus du ralentissement du PIB, de la croissance récente. Bien sûr, les mécanismes d'incitation de la demande ont fort élargi la demande agrégée. Il n'est pas question de discuter si ils ont été très efficaces dans ce sens. Mais du côté de l'offre, on peut dire que les actions que le gouvernement brésilien ont prises, elles ont été beaucoup plus subtiles. Et bien sûr, les effets ne sont pas aussi immédiats qu'on voit du côté de la demande. C'est pour ça que la plupart des analystes ont tourné beaucoup leur analyse vers le côté de l'offre. Okay? Et récemment, les deux dernières années, elles n'ont pas été très, très favorables au gouvernement Dilma, vu que le PIB, le taux de croissance, elle a fort baissé. Alors, si on parle d'une équation de base, alors bien sûr, la croissance, elle dépend bien sûr de l'offre de la main-d'œuvre, de l'offre du capital et de la productivité. On peut dire que la productivité aussi, elle est liée aux questions institutionnelles, etc. Mais ça simplifie très, très rapidement ce qui importe pour la croissance. Et ce que je veux dire, c'est que ce sont les mécanismes d'inciter la croissance. Okay? Soit on augmente le stock de capital, soit on augmente l'offre de main-d'œuvre, soit on augmente la relation. On peut mettre tous ensemble. La relation capital-travail, ça c'est juste pour montrer comment on peut pousser la croissance. Et pour dire que à l'heure actuelle, on ne peut plus compter avec l'accroissement de la main-d'œuvre comme on a eu dans les années récentes. Il y a une chute de la croissance démographique au Brésil, une réduction, pas une chute, mais une réduction progressive qui se stabilisera à la mi-2030, je ne sais pas exactement. Ce qui est plus important, on n'arrive pas à intégrer davantage de cette main-d'œuvre au Brésil parce qu'on est déjà atteint un niveau de plein emploi. Okay? Et là, on est face à un problème parce que si on comptait avec cet accroissement de la démographie et de la main-d'œuvre pour la croissance, maintenant on n'en a pas, alors il nous reste très peu de. Enfin, il nous reste quelques éléments de cette équation pour faire accélérer la croissance. Selon cette étude de Bonnel et Font, ce modèle de croissance économique récent, elle a été fort concentrée sur l'expansion des secteurs fort intensifs en main-d'œuvre, surtout dans les secteurs de services. Ce qui fait que maintenant, on a cette situation déjà de plein emploi. Et dans tous les cas, il est question d'augmenter l'investissement. Il est question d'augmenter le taux d'investissement pour augmenter bien sûr le stock de capital, mais aussi cette relation entre et l'intesté c'est presque l'avant-dernier transparent. Et l'autre élément qui on n'est pas comme je vous ai dit on n'a pas discuté beaucoup, c'est cette financiarisation ou cette dominante financière dans l'économie brésilienne qui fait en sorte que bien que les profits ils augmentent, ils ont augmenté la part de profit dans le PIB, ils ont augmenté récemment, mais ça n'augmente pas le taux d'investissement vu qu'une bonne partie de ces profits là une partie est accaparée par la sphère financière. Et ça, c'est comme si on stérilisait cette épargne-là. Alors, j'ose dire que ce n'est pas un problème d'épargne, comme il y a beaucoup de monde qui parle au Brésil, il faut augmenter le taux d'épargne, mais non, c'est plutôt cette composante financière qui s'en accapare de cette part d'épargne et qui les stérilise d'une sorte. Ça n'aide pas, par exemple, aux investissements. C'est pas une épargne qui va aider dans l'investissement. Alors, bien que les profits ont augmenté dans le secteur industriel, par exemple, ça n'a pas vraiment poussé aux investissements, les investissements. Et malgré tous les dispositifs, toutes les incitations faites par le gouvernement brésilien, on ne voit pas une avancée dans le rythme attendu. Okay? Alors pour conclure, on peut dire que les limites de ce modèle de croissance avec répartition actuellement n'est pas vraiment du côté de la demande, c'est pas du tout, bien au contraire. Ils sont beaucoup liés au taux encore insuffisant d'investissement et cette rigidité de la main-d'œuvre, de l'offre de main-d'œuvre que je vous ai dit, on est atteint au niveau de plein emploi. Techniquement, on est à un niveau proche du plein emploi. Et comme on a des problèmes structureux avec cette main-d'œuvre, c'est pas facile de transformer quelqu'un qui a toujours fait, qui a capiné, et maintenant vous allez travailler, être beaucoup plus. C'est pas quelque chose pour une génération. Ok. Alors, qu'est-ce les sorties envisagées? On peut parler de trois sorties, mais je vais concentrer sur celle-là, et qui est celle que moi je suis plutôt d'accord, et c'est celle que le gouvernement brésilien a adoptée. Il y aurait une sortie libérale, qu'on peut discuter aussi dans les discussions, mais la sortie envisagée serait maintenir ou accroître la participation active de l'État en tant qu'investisseur et inducteur de l'investissement privé. Le changement du profit de la dette publique, baisser le taux d'intérêt serait déjà un grand pas dans ce sens-là. C'est ce que le gouvernement brésilien a essayé, mais on maintenant, en fonction du pendulaire vers l'orthodoxie, on a repris l'augmentation de taux d'intérêt, enfin dans ce sens qui est pendulaire. Mais c'était un grand coup de bras, non, on dit pas ça, un grand combat du gouvernement brésilien pour faire baisser le taux d'intérêt. Et finalement, les investissements massifs en éducation, bien qu'on ne va pas vraiment changer la situation de cette main-d'œuvre aujourd'hui, des gens qui sont dans la trentaine, quarantaine, c'est difficile, mais pour les générations à venir, peut-être pour la prochaine génération, on peut. Ok. Excusez-moi, j'essaie de faire le plus vite. Excusez-moi avec mon français.
Merci beaucoup.